veut nous taire, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à toi qui écoute la radio sur Lyon et Radio Canu sur le 102.2 de la bande FM sur radiocanu.org. Il est 22h passé de quelques minutes et on est de retour au studio, retour au direct avec la causerie. Donc, dans les studios, nous avons à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir, ça s'est entendu que tu étais de retour.
Il paraît que Fab a fait des bêtises.
Et donc Fab qui est aussi avec nous.
Je sais pas si je vais parler, là, parce que je vous trouve très dur avec moi qui me suis trompé de micro au démarrage la semaine dernière.
Oui, bon, c'était une petite...
Ça peut arriver.
Mais bien évidemment, ceux qui ne font rien ne font jamais rien de mal.
Bah, donc... c'est vrai. Non mais c'est vrai que j'ai vraiment merdé et je suis content que tu sois là, Clara.
Ce n'est pas grave. Et ben donc, une causerie un peu comme à son habitude, avec deux sujets. Et c'est Fab qui commence ce soir et tu vas nous parler de l'AME et de santé publique.
Oui, parce qu'alors on en avait déjà parlé dans la causerie, parce que ça revient souvent ce sujet quand même. Mais c'est une petite musique donc du coup qui revient un petit peu en ce moment pour faire des économies et empêcher une vague migratoire de submersion. Il faudrait supprimer l'AME, aide médicale d'État, qui serait donnée pour des gens qui ne le méritent pas. Comprenez donc des sans-papiers et des réfugiés, hein, voilà. Parce que c'est de ça dont on parle concrètement. Cette petite musique facho, hein, parce qu'on va quand même lutter. C'est une musique, c'est toujours, faut vous dire, là c'est facho. Voilà. Elle traîne depuis que l'AME a été créée. Hein. Depuis la création de l'AME, ça revient régulièrement sur le tapis, tout
oui,
ça.
Je crois que l'AME, quelqu'un en avait déjà parlé de sa trop grosse générosité il n'y a même pas 2-3 ans, je crois.
Hein. Bah, oui, un certain Gérald D.
Ah oui.
Disons Darmanin.
Oui.
Voilà qui expliquait.
Il a été doublé par sa droite.
Voilà et qui expliquait en partant.
Il était déjà bien à droite.
Hein. C'est ça. Mais qui expliquait en partant de son ministère que si c'était appelé Moussa, eh ben il aurait peut-être pas pu faire tout ce qu'il a fait. Donc c'est bien, il a découvert le racisme une fois qu'il partait. Mais avant il le pratiquait bien. C'est ça
c'est
qui
fou,
est.
Voilà. Hein.
Donc à l'origine quand même l'AME s'est créée pour deux raisons. Hein, on va le rappeler. D'un côté permettre à des personnes de se soigner même si elles sont en situation irrégulière. Alors ça pour les fachos qui nous écouteraient, ça vous fait peut-être bondir, mais en fait c'est juste rentrer dans les critères des droits humains auxquels la France adhère, hein, je vous le rappelle, et c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, voilà.
Mais ça aussi, ça les fait bondir.
Ouais, je sais, mais donc c'est juste pour rappeler d'où ça vient, quand même. Et de l'autre, protéger toute la population avec et sans papier, d'épidémies possibles et de surcoûts de santé liés à des pathologies pas prises à temps en soins. En fait, ça s'appelle juste faire de la prévention, hein, voilà. Bref, c'est un dispositif doublement gagnant, hein, qui a fait ses preuves. Parce que, bah, doublement gagnant, parce que d'un côté, des gens se soignent, de l'autre, ça évite que, bah, on arrive au moment où ils arrivent aux urgences. Depuis sa mise en place, il a déjà quand même été modifié 15 fois, hein. Et à chaque fois, pour montrer du doigt les immigrés. Tous, hein. Parce que le but, c'est bien raciste. Hein, et de mettre la suspicion sur toutes celles et tous ceux qui ne sont pas français, même s'ils sont ici légalement, ou qu'ils sont français, mais avec une origine visible. Hein. En gros, ça, tous. Voilà. On nous dit que l'AME, elle coûte cher. Ah ouais. Et on nous sort le chiffre de 1 milliard d'euros par an parce que ça sonne bien et que ça fait peur. Alors en fait, l'AME, ça ne représente que 1% des dépenses de la sécurité sociale si on le met à 1 milliard d'euros. Mais en fait, c'est pas 1 milliard le vrai chiffre, c'est 500 millions. Donc en fait, c'est même moitié moins. Mais bon, pas grave.
On n'est plus à 500 millions. Près.
Voilà. Parce qu'en fait, en réalité, il y a des médecins qui ont expliqué que le chiffre d'un milliard, 1,2 milliard, ça prend aussi en compte une partie des gens qui finissent quand même aux urgences. Or, je vous rappelle qu'en France, les urgences sont universelles. Et c'est-à-dire que quand vous vous blessez en France, quel que soit le pays d'où vous venez, quelle que soit votre nationalité, on vous soigne. Et oui, et c'est une très bonne chose. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, non. On peut quand même se féliciter que ça existe en France.
Oui, d'ailleurs... Pour ceux et celles qui ont regardé les JO, non, je déconne, je les ai pas regardés. Mais par contre, oui. Un des trucs qui était ressorti, c'est qu'il y a quelques athlètes, notamment, je crois, américains,
oui, l'accès aux soins,
qui se sont fait soigner en France en se disant. Mais attends, c'est complètement fou, j'ai pas eu à sortir ma carte bleue. Bah oui, en fait, c'est quand même vachement bien, non ?
Et précisons que cette polémique, déjà à l'époque, avait fait, pendant les JO, bondir l'extrême droite qui, du coup, avait obligé le CIO, le COJO, le Comité Olympique Organisateur okay. des JO, à dire qu'il prenait en charge les frais. Vous voyez ? Donc on voit bien quand même qu'il y a un truc qui va pas dans la tête des fachos. Alors, mais encore mieux, hein, toutes les études menées démontrent que si on supprime l'AME, le coût pour la sécurité sociale sera multiplié par au moins 3 du fait de la prise en charge aux urgences des personnes ou d'épidémies qui reprendraient faute de vaccination ou de détection précoce. Donc en fait, ça fait faire des économies, même si on parle d'un point de vue cyniquement financier, ça coûte pas. Ça rapporte, vous voyez, c'est dur pour Monsieur Retailleau, mais voilà. Alors moi je vois sortir du bois les petites ordures hein, pour nous dire, ah vous voyez que vous dites que les étrangers ils ont des maladies, alors on va se calmer, hein. Non, je dis juste qu'ils peuvent, comme tout à chacun, toi y compris, qui n'est pas étranger à tes yeux, en avoir des maladies, parce que figurez-vous que les virus, eh ben ils s'en foutent de votre carte d'identité, mais alors... Totalement.
Vous voyez, c'est fou, hein.
Ah ouais, alors les mycoses, tout ça, en fait, elles s'en foutent. Elles disent pas, ouais, tiens, je vais aller spécifiquement sur un gars qui a pas de carte d'identité française. je sais pas dans quel monde vous vivez, mais faites de la bio. Un petit peu. Alors, et je rappelais quand même que la dernière épidémie de rougeole en France, hein, par exemple, elles sont bien le fait de personnes non vaccinées, et dans ce cas, par choix idéologique. Des antivax et des gens qui étaient 100% français, hein, pour ceux qui ont besoin d'avoir des étiquettes partout. Donc, vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui.
Oui, mais ils préfèrent des antivax français que des gens
qui se vaccinent,
pas français,
mais pas français,
qui se soignent.
Voilà, donc bref.
Oui, ils vivent dans un monde parallèle assez étrange.
Bref, l'AME, c'est le hochet à imbéciles par excellence. Ça permet d'être un gros raciste bouffi de haine, mais de donner l'impression qu'on est là pour sauver la sécurité sociale. Voilà. Je résume.
Mais ne serait-ce que déjà une personne de droite au départ qui a envie de sauver la sécu.
On n'y croit pas.
On n'y croit pas. Et là, ouais.
Donc c'est d'ailleurs pas vraiment une surprise que ce soit le chef de milice, le chef de parti Retailleau. Des fois, je mélange.
La limite est fine, quoi.
D'ailleurs, c'est B. Retailleau, mais ça fait R. Retailleau, ça marche aussi. Qui met cela sur la table. Voilà. D'ailleurs, il est bien connu hein, que l'AME dépend du ministère de l'Intérieur, non ? Ah ben non, parce que ça dépend, enfin on me dit dans l'oreillette que non, et que ce bouffon bouffi de haine, eh ben il aurait dû fermer sa bouche parce que ça dépend d'un seul et unique ministère, le ministère de la Santé. Voilà.
Oui, mais au vu des dernières déclarations de Retailleau, je crois qu'il aimerait que tout dépende du ministère de l'Intérieur. Hein, la justice, tout.
Voilà, parce que voilà. Ce qui est terrible, hein, c'est qu'on comprend que la santé publique passe bien après le fait pour eux hein, de garder le pouvoir, tout simplement. Bien après leurs petites ambitions personnelles qu'ils construisent sur la division des humains et la haine de l'autre, tout simplement. Et si vous pensez que quand je dis cela, je suis un anarchiste énervé et qu'il n'y a que moi qui pense que l'AME est importante, détrompez-vous. Figurez-vous que dans Le Monde, journal loin d'être gauchiste, hein, on a un paquet de villes révolutionnaires qui ont signé une tribune. Attention, hein, et je vais même balancer leur nom parce qu'ils vont peut-être terminer fichés, faut faire attention. Alors leur nom, c'est pas compliqué, c'est Aurélien Rousseau, Roselyne Bachelot, François Braun, Agnès Buzyn, Agnès Firmin, Le Baudot, Marisol Touraine, Frédéric Valletoux et Olivier Véran.
Ouh là là, ça c'est des radicaux. Hein.
Ça sent du radical.
Ouais,
hein.
Ça c'est de la gauche, de l'extrême gauche.
Et ben en fait, c'est tout simplement les 8 ex-ministres de la Santé, hein, les 8 derniers ministres de la Santé, qui appellent à ne pas toucher à l'AME. Et leurs arguments sont logiques. Dans la tribune signée, ils disent tout simplement « Toucher à l'aide médicale d'État va à rebours de la logique même des politiques de santé publique que nous avons mises en place. » Mais encore que l'AME ne constitue pas un facteur d'incitation à l'immigration dans notre pays qui serait aux frais des Français. C'est un fantasme contraire aux faits, qu'ils disent.
Bah oui.
Alors quand des gens de droite, donc même de droite,
arrivent à des conclusions,
arrivent à dire... Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Je pense qu'on peut se dire que c'est vraiment un délire. Vous voyez. Rosine Bachelot, Olivier Véran. Enfin, je veux dire, on parle quand même pas de Marisol Touraine. Enfin, on parle pas de gens hyper open, machin. Tous ces gens, ils ont tué l'hôpital, au passage. Mais, voilà. Mais, ouais. Même eux, ils disent, ah non, l'AME, quand même, la pousse pas mémé dans les orties, quoi. D'ailleurs, ils en profitent pour rappeler un fait précis. L'AME est cantonnée à un certain nombre de soins. Et pas à tous les soins imaginables. Oui, parce que ça, l'extrême droite et la droite ciotiste, et puis bien du coup la droite rotailloïste aussi, hein, ils disent oui, ben, vous rendez compte, s'ils veulent faire de la chirurgie esthétique, ils peuvent le faire avec l'AME. Alors pas du tout. Hein, l'AME, c'est très précis, c'est carré, on sait ce qu'on a le droit de faire, pas faire. C'est pas open bar, vous voyez, c'est juste la prévention.
Non, donc, mais puis c'est vrai, on imagine beaucoup quand même des gens qui donc risquent de mourir dans la Méditerranée ou ailleurs.
Se faire refaire les seins ou les fesses.
Ouais.
Ou allonger le sexe.
Oui, c'est ça, c'est vraiment leur ambition première. Non, mais,
c'est pour ça qu'on voit qu'il y a du délire vraiment et de la haine derrière.
Oui.
C'est bien une aide d'urgence et spécifique, hein, contrairement à ce qu'on trop de monde laisse entendre. Mmh. Il y a des gens qui disent oui, mais ils vont soigner de tout et n'importe quoi. Bah non, en fait, il y a un nombre de trucs, je vous le dirai après. Donc, les villes gauchistes.
Donc, Bachelot, tout ça.
Que
là.
J'ai cité juste avant. Il rappelle que l'AME garantit aux étrangers en situation irrégulière la prise en charge gratuite de soins médicaux sous deux conditions. La résidence irrégulière continue en France depuis plus de 3 mois. Donc déjà, je vous rappelle quand même que la plupart des médecins urgentistes disent il faut pas qu'il y ait ce délai-là, parce que c'est beaucoup trop long. Parce que si des gens rentrent, par exemple, avec une épidémie, ou s'ils rentrent avec une maladie qui peut être très dangereuse pour eux, ou tout simplement s'ils font un cancer, bah en fait, 3 mois, c'est extrêmement long. Hein, vous voyez, donc déjà, au départ, il y a une sorte d'inhumanité dans cette limite de 3 mois. Et de ressources inférieures à un plafond de 10 166 € par an, soit 847 € par mois. Voilà. Donc on voit quand même que c'est pas open bar et que c'est pas ouvert à tout le monde. En 2024, l'enveloppe de l'AME prévue par l'État s'établit donc à 1,2 milliard d'euros, soit environ 0,5% des dépenses prévues par le budget de la Sécurité sociale PLFSS. Donc je rétablis les chiffres, c'est pas 1%, c'est 0,5%, même si vous mettez 1,2 milliard. Fin 2023, on comptait 466 000 bénéficiaires de l'AME. Voilà même ce que BFM est obligé d'écrire dans son article, parce que j'ai piqué les chiffres sur BFM quand même. Hein. Donc vous voyez, mais là aussi, c'est pas des gauchistes, BFM.
Non, donc, je peux pas dire. Ça,
je suis allé chercher mes sources dans des gens qui étaient pas trop à gauche, quoi. Je me suis dit, pouf, si on va me reprocher. Non, mais ça m'énerve. Je préfère en rire parce que j'ai envie de tarter des gens. Donc voilà. Donc en fait, pour expliquer pourquoi c'est important d'avoir ce chiffre en tête, parce que vous avez une petite musique, notamment un certain Jordan B. Bardella de son nom. Vous savez, un gars qui fait des faux pour dire qu'il était au Parlement européen alors qu'il n'y était pas.
voilà. Bon. Ah, tu veux dire lui?
Parce que lui, il a le droit de voler de l'argent public, c'est ça le truc.
Oui.
Et bah oui.
Donc, parce qu'il a ses papiers.
Lui, ses papiers.
Ben ils ont le droit de nous voler.
Exactement.
Pardon.
Donc du coup, Jordan Bébé, là, il disait, vous vous rendez compte, 466 000 bénéficiaires, ça veut dire qu'il y a 466 000 sans papiers en France. Alors Jordan, je vais te rappeler ce que ça veut dire 466 000. Non, c'est 466 000 acte en réalité. Mais comme en fait en France on ne fait pas de fiches, c'est-à-dire qu'on n'écrit pas les noms, vous voyez, on fait pas. Je sais que t'en rêves, hein. Oui. Jordan, je sais que t'en rêves. Mais on fait pas ça encore. Donc en fait on a le nombre d'actes. Donc en réalité 466 000 bénéficiaires, bah ça peut être 46 000 fois quelqu'un qui va voir 10 fois le médecin. Vous voyez, ça fait 466 000 bénéficiaires. Sauf que c'est 1 × 10, vous voyez. Donc on ne sait pas combien de sans-papiers ça représente ce chiffre-là. Donc arrête de raconter n'importe quoi partout. Et rappelons que l'AME concerne les soins médicaux et dentaires, les médicaments remboursés, les frais d'analyse et d'hospitalisation, ainsi que ceux afférents à certaines vaccinations et certains dépistages, et à la contraception et à l'IVG. C'est tout ce que l'AME court. Point. Et après, il y a même des médecins qui disent qu'on a retiré de l'AME, notamment le fait de soigner les cancers hors type 4. Je vous rappelle, quand vous avez un cancer de type 4, c'est que vous êtes à deux doigts de mourir. Donc, c'est-à-dire qu'on a retiré de l'AME le fait de soigner des gens. Ça devrait quand même vous heurter, ce que je suis en train de dire. Mais c'est la réalité. Et il y a plein de médecins qui disent que ce qui est la dernière réforme de l'AME, sous d'ailleurs l'envie d'un certain Gérald Darmanin, hein, c'est lui qui en parlait, qui a quand même enlevé des choses qui étaient hyper importantes, notamment, y a un médecin pédiatre qui en a parlé, notamment pour les cancers des enfants. Où aujourd'hui, en fait, ils sont plus pris en charge, ou alors ils le sont, mais avec des associations qui payent ou des choses comme ça. Et c'est pas du tout normal, en fait. On devrait prendre en charge n'importe quel enfant, d'où qu'il soit, qu'il ait ou pas ses papiers. Et si t'es pas d'accord avec ça, coupe ta radio. Donc, ou va ailleurs. Il y a Sud Radio, si vous t'allez t'éclater. Donc, toute personne qui est contre l'AME en veut clairement et directement aux enfants, aux femmes, aux droits des femmes et aux droits d'avortement. Voilà, c'est pas compliqué, parce que c'est c'est tout ce qui reste. Donc doit-on être surpris que ce gouvernement plus proche de Pétain que de Jean Moulin soit sur cette ligne? Bon, pas vraiment, mais il va quand même falloir nous être quand même plus vigilants dans les mois qui viennent face à ce gouvernement et ses alliés. Quand je parle de vigilance, ça veut dire qu'il va peut-être falloir qu'on se bouge un peu plus quand même. Cet exemple d'attaquer l'AME illustre parfaitement les méthodes à venir. Mensonge, division, exagération. Parce que alors, qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi? Je vous rappelle les chiffres. L'AME, c'est 0,5% du PLFSS, donc des dépenses de la sécurité sociale, à hauteur de 1,2 milliard, qui inclut les frais d'urgence dedans. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est que dalle. Enfin, on va être très clair, c'est rien en fait. Voilà. D'ailleurs, il y a une dame qui a dit un truc très intéressant, qui a dit si on veut vraiment faire des économies sur la sécurité sociale, il faut aller plus fort sur la sécurité routière. Parce qu'en fait, les accidents de la route nous coûtent beaucoup plus cher que l'AME. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'était, je croyais que la remarque était juste, en fait. Donc, du coup, pour finir ma chronique, j'aimerais rappeler quand même deux, trois choses qui peuvent sembler basiques, mais qui pourtant font ce que nous sommes, nous, les gens de la causerie et ceux qui nous écoutent, j'espère pour la plupart. Soit des humains ou alors des ordures. Mais nous, on est plutôt des humains. On essaye. La santé est un dû pour toutes et tous. Elle doit être un but pour l'humanité et chacun se doit de veiller à ce que tout le monde y ait accès. Cette phrase, qui est très belle, c'est pas moi qui l'ai écrite. Non, c'est ce que la France a signé au niveau de l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc, vous voyez, c'est pas... Voilà, hein. Bon. C'est dans cet esprit-là que la sécurité sociale, là c'est moi qui écris, qui parle, que la sécurité sociale a été créée en France et d'autres systèmes ailleurs. C'est l'idée en fait que, on va faire de la santé individuelle, mais de la santé dans le partage non plus, mais dans la notion de solidarité. Parce que chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins. Et quand on n'est pas dans la notion de charité ou dans la notion d'individualisme, en fait, on rentre dans une notion d'humanisme, qui est celle de dire qu'en fait, chacun doit avoir accès à la santé. Ne pas veiller sur la santé des réfugiés, sous prétexte qu'ils le sont, réfugiés, ou qu'ils seraient sans papier, parce que ça a l'air d'être très grave, ça. C'est juste, en fait, franchir le pas de refuser de voir qu'en eux des semblables et des humains. Parce qu'on va être très clair, qu'est-ce qu'il nous dit monsieur Retailleau? Il nous dit, si quelqu'un arrive à l'hôpital ou arrive chez un médecin généraliste et que, je sais pas moi, il est tombé il tousse, on va même prendre un truc plus précis, il tousse, en fait monsieur Retailleau il dit vous le renvoyez chez lui, mais qu'il n'a pas de chez lui, mais vous le renvoyez, vous ne le soignez pas. Or si cette personne par exemple porte une maladie, tuberculose, coqueluche, quelque chose comme ça, il va pas s'arrêter de tousser en sortant de la truc, il va tousser un peu partout. Donc en fait, vous allez avoir des gens qui vont être touchés, mais surtout lui, il va souffrir. Et donc en fait, monsieur Retailleau, il nous dit, faut laisser souffrir des humains. C'est ça qu'il dit en fait, ni plus ni moins. On va essayer de traduire un petit peu. C'est comme quand monsieur Retailleau, il vous dit, il faut bloquer les frontières. En fait, il est en train de vous dire, laissez couler les bateaux en Méditerranée, laissez mourir des humains. C'est ça qu'il dit en fait concrètement. On va arrêter de prendre des euphémismes parce que c'est réellement ce que pensent ces gens. Donc c'est démontrer à quel point quand même les thèses racistes, racialistes et colonialistes ont encore du poids dans nos sociétés. Parce que c'est ça la réalité. C'est qu'en fait on est sur du bon vieux racisme bien basique. Face à ces propos, il n'y a quand même pas de mais ou de tergiversation à avoir. Nous sommes bien avec un gouvernement proto-fasciste qui agit comme tel et qui agite les peurs comme outil de propagande. Avant de finir ma chronique, je l'ai lu juste avant de venir. Monsieur Retailleau, ce soir, parce que je pense qu'en ce moment, il doit avoir un problème de priapisme. Non mais c'est ça se soigne d'ailleurs. Lui, il a pas l'AME, mais il peut aller se faire soigner le priapisme. Ça se soigne très bien. Il est arrivé, il a dit oui. Alors moi, je suis super déçu de pas pouvoir faire un référendum sur l'immigration. Bon, vas-y mon gars, t'as qu'à reprendre le programme du Rassemblement National et nous faire croire que tu luttes activement contre l'arrivée du Rassemblement National à la tête de l'État. Donc en fait, on voit bien quand même que ce monsieur Retailleau est un fasciste d'extrême droite et se comporte comme tel, et on a les thèses et on a le discours. Donc on va arrêter de tourner autour du pot, c'est à un moment donné, continuer à croire que l'extrême droite ne gouverne pas en France, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce qu'elle y est, et elle y est bien. Donc oui,
oui non, vas-y,
voilà.
Vas-y.
Donc moi je voulais juste te dire, il est quand même tout le temps de savoir si on doit ou non le combattre, voilà, parce que moi je m'interroge beaucoup, parce que je trouve que, notamment sur les sorties sur l'AME, j'ai trouvé l'ensemble du nouveau Front Populaire quasiment, mais quasiment muet, pour être très clair. À part, et je le dis parce que je l'ai vu réagir, Marine Tondelier, qui elle a fait une sortie que j'ai trouvée excellente, en rappelant qu'en fait, la base de la gauche, c'est quand même l'humanisme, hein, et qu'à un moment donné, bah, si on défend pas l'AME, en fait, on va avoir un léger problème, et elle avait, je trouve, raison. Et ce qui est quand même dingue, c'est de voir que c'est des anciens ministres qui montent au créneau, alors qu'on devrait avoir des milliers, je sais pas, on a des milliers d'artistes, hein, des milliers de gens de gauche qui signent des tribunes pour tout et n'importe quoi. Là, pour l'AME, pas un seul texte commun. Rien. Alors que c'est central. Parce que ça veut dire simplement on est pour l'accueil sans condition des personnes réfugiées. On est pour le soin sans condition des personnes réfugiées. Si on sort de ce dogme-là, et c'est un dogme, parce que c'est un vrai dogme, si on sort de ce dogme-là, en fait, on rentre dans l'autre dogme, qui est celui que dire les humains peuvent être triés. Moi, j'ai pas envie, personnellement. Donc, il est temps de se battre, de gueuler, de râler, et puis de peut-être aller emmerder M. Retailleau un peu plus quand il se déplace, parce que je trouve vraiment que là, il s'en poussait des ailes.
Ouais, bah, clairement, lui, il est vraiment à l'aise, en fait. Hein, Les gens croyaient qu'il était simplement de droite, parce qu'il n'était pas avec Ciotti. Bah non, en fait.
Non, c'est juste que c'était pas l'opportunité n'était pas bonne.
Et en fait, c'était juste, je voulais rebondir avant quand tu parlais du RN qui n'a pas le pouvoir, mais en fait, on en a déjà souvent parlé ici, en fait. Il faudrait vraiment qu'on se rattache plus aux idées, en fait.
À ce que disent les gens, ouais.
C'est ça, à ce qu'ils disent les gens, à ce qu'ils portent, en fait. C'est pas parce que vous avez le maillot de LR ou de, je sais plus comment il s'appelle, les Républicains ou je sais pas quoi, mais si vous portez des. Ou même, on peut avoir un t-shirt, un maillot d'une équipe de gauche, si vous portez des propos qui sont dégueulasses, ben en fait politiquement ça vous situe ailleurs, parce que oui en fait il y a des bases quand même qui reflètent un peu les pensées que sont être de gauche, alors socialiste, on peut aller, on peut élargir le champ évidemment, et on peut aller dans la radicalité, je serais pas contre, mais juste effectivement on revient quand même à ce truc là de arrêtons de nous attacher à des étiquettes et revenons sur le factuel, en fait.
Ce qui est fait, il dit.
Ce qui est fait, il dit, parce que on a l'impression que plus personne ne comprend rien à ce qui se passe. Il y a des gens qui sont persuadés d'avoir fait barrage à l'extrême droite, sauf qu'en fait,
bah, elle est au pouvoir.
Ces idées sont déjà là et ça date pas du dernier gouvernement.
Non,
donc il y a vraiment, on en a souvent parlé ici, il y a une vraie perte d'idées, d'idéaux, d'idéologie, et c'est, moi je pense que c'est, et c'est dramatique.
Et de radicalité au sens d'aller à la racine.
Oui.
Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand déjà on commence à dire qu'il y a un problème d'immigration, il n'y a pas de problème d'immigration. L'immigration, le mouvement des êtres humains, ça a toujours existé, ça existera
toujours.
C'est
l'histoire de l'humanité.
Et de toute façon, avec un monde qui est de plus en plus à feu et à sang, de différentes façons, soit par des guerres, soit par les dérèglements climatiques, il arrive un moment où les gens vont bouger. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais voilà, parce qu'on ne reste pas enfermé, on ne va pas attendre tranquillement que les bombes nous tombent sur la gueule. S'il fait 50 degrés à l'ombre, on ne va pas rester. Enfin, c'est un peu logique. Voilà. Je veux dire, c'est juste de la logique. Donc en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit en fait, vous avez envie de créer une forteresse et vous allez faire des murs, ça c'est comme Trump, comme les fascistes qui viennent d'arriver au pouvoir en Autriche, qui rêvent de ça, de faire des murs, de mettre des miradors, de tirer à vue. Ça, ouais, vous avez le droit de le penser, hein, c'est pas interdit, c'est pas illégal. Par contre, vous êtes clairement dans une sphère proto-fasciste, c'est un fait, parce que avoir l'envie de faire des murs, de se couper de nos frères et sœurs humains, c'est fasciste. Point barre. Ou alors, vous vous dites, bah ok. On sait que ça arrive, donc on va s'arranger pour que ça se passe le mieux possible, qu'on apprenne à bien recevoir les gens, qu'on puisse être ouvert à d'autres sociétés, à d'autres façons de voir les choses, qu'on puisse aussi écouter ce que ces personnes nous disent, parce que certaines elles nous disent pas je veux rester. Certaines, elles disent, bah, juste quelques temps, le temps que la guerre, elle s'arrête, par exemple, vous voyez, c'est tout bête, hein. Prendre en compte aussi, le fait que, bah, c'est des humains, donc ils méritent d'avoir les mêmes droits que nous, les mêmes accès aux soins que nous, les mêmes accès à l'aide que nous, tout simplement. Et voilà, et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là qu'en fait, on voit où on, dans quel camp, parce que désolé, mais c'est des camps idéologiques, oui. On se situe en fait à un moment donné. Et surtout, moi j'aimerais quand même qu'on arrête aussi de jouer à se renvoyer la balle en permanence. Parce que, vous savez, l'État français, il est structuré de façon à ce que tout le monde puisse se renvoyer la balle tout le temps à dire c'est pas moi, c'est pas la métropole, c'est l'État, c'est pas l'État, oui. C'est le département, c'est pas le département, c'est la région. Mais en fait, tout ça, on sait que c'est du jeu politique pour rien faire. Oui. Et j'aimerais qu'en fait, des fois, des personnes qui croient encore à la démocratie avec les votes, tout ça, à échoper les gens qu'ils ont mis au pouvoir pour leur dire non mais attends, je t'ai filé mon pouvoir là, pourquoi tu fais rien ? Pourquoi tu ne fais rien ? Moi je rappelle, dans l'agglomération lyonnaise aujourd'hui, il y a entre 50 et 200 gamins qui dorment dans les rues. Des enfants. Je parle pas d'adultes, hein, je parle d'enfants. Et ben, quand on en est là, en fait, à un moment donné, c'est vraiment qu'on a perdu toute notion d'humanité. Et je me fous personnellement de savoir si ça relève de la métropole, du département, de la région, de la sous-préfecture, de la préfecture. Je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème. Désobéissez.
En fait, c'est voilà, ça. C'est-à-dire que c'est quand même un camp politique qui souvent va se gargariser sur des résistances, sur des gens qui ont enfreint les règles.
Bah, désobéissez. Et
désobéissez, en fait. Enfreignez les règles.
Oui, je veux dire,
les règles sont dégueulasses, enfreignez-les.
Parce qu'on parle de gamins, quoi. Moi, je sais pas, à un moment donné, on parle d'enfants qui dorment dans les rues. Bah, moi, il y a un moment, ça, c'est juste que ça devienne normal, qu'on se dise, bah, c'est comme ça. Ou qu'on vienne trouver des excuses bidons à coup de c'est pas moi, c'est l'autre. Ben en fait, je suis désolé, au bout d'un moment, ben, ça écœure, quoi. Je sais pas
ben
comment
oui,
dire,
et puis si, voilà. Si toi.
Ça me met en colère, ça m'écœure pas. En
fait. Et si toi, honnête citoyen, citoyenne, en fait, t'en es à penser que ton quotidien va s'améliorer parce qu'il y aurait 1 milliard qui irait en direction de gens qui n'ont pas les bons papiers, etc. Ben en fait.
Bah, rappelle-toi qu'il y a 220 milliards par an qui sont donnés aux multinationales et aux plus riches en France. Tu verras qu'il y a de quoi taper ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Si vraiment tu veux récupérer un milliard, je peux te donner d'autres pistes sans trop de problèmes.
Les boucs émissaires sont si vite trouvés que, en fait, ça empêche de penser, en fait. Et je crois que là aussi, il y a un gros problème. Enfin, bref.
Ouais,
on pourrait faire des heures, mais.
Ouais, mais c'est pour ça que je voulais en parler ce soir.
Ouais, oui, t'as très bien fait.
Je pense qu'en fait, à un moment donné, il faut reposer les choses et que oui, effectivement. Alors, je sais, il y a des gens peut-être qui vont nous écrire pour dire que je suis un bisounours. Et que j'ai qu'à accueillir des étrangers chez moi, eh ben j'ai qu'un F3, donc on va peut-être être un peu serré. Mais en tout cas, la question est pas là. La question c'est de savoir comment je vois l'autre avant tout. Et c'est ça la première des questions qu'il faut se poser, c'est comment je vois les autres. Et une fois que t'as répondu à cette question, viens me donner des leçons.
Exact. Voilà.
On passe à la musique.
Pour la douceur de la veille et l'étoile de ma grand-mère, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Pour les souvenirs à Marseille et les yeux de mes grands-pères, je veux marcher droit, je veux marcher droit. Je veux marcher droit.
truc. Et je le sais parce que mon père l'a filmé. Il a dit...
La petite fille n'est pas un singe. Voilà, je le dis, elle voit comme elle veut.
Ma petite fille n'est pas un singe, et je vous le dis, elle fera comme elle veut. C'était le grand-père de Solane qui lui parlait quand elle était toute petite. Et voilà, c'était un titre de Solane, et ça s'appelle Marché droit. C'est le premier titre de son futur album. Et moi, je vous le dis, Solane, c'est une future grande, mais c'est même une grande déjà aujourd'hui, à mes yeux. Et voilà, et c'est une artiste que je trouve passionnante, parce que, voilà, je sais pas comment dire, elle est passionnante. Donc, écoutez Solane. Faites ça, quoi. Et donc, Jean-Yves, c'est toi qui prends la suite et tu voulais nous présenter un bouquin.
Tout à fait. Tout brûlé. C'est le nom du roman dont je vous cause ce soir. Alors, c'est Lucie de Peslouan qui en est l'autrice. La ville brûle, c'est la maison d'édition, en tout cas en France, puisqu'il est aussi édité au Québec. Alors, Lucile de Peslouan, je ne sais pas du tout si on le dit comme ça, mais en tout cas, on va le dire, de Peslouan, autrice française, donc, qui habite au Québec, comme je le disais. Non, je ne le disais pas, mais je vous le dis. Elle a déjà plusieurs ouvrages à son compte, de la poésie, de la littérature jeunesse, des fois un truc un peu entre les deux aussi, dont « Une année pour toujours », ou encore « Pourquoi les filles ont mal au ventre ?» et enfin « C'est quoi l'amour ?» Alors elle écrit aussi pour des revues littéraires et des magazines, et elle continue toujours de réaliser des fanzines sous le nom de « Shushana Bikini London ». Alors j'ai pas fait de recherche, mais ça me donne vraiment envie de chercher, mais j'ai un peu manqué de temps, mais je suis curieux de voir ce qu'elle écrit. Donc Tout brûlé, c'est son premier roman à destination du public adulte. Et pour la petite histoire, ou pas d'ailleurs, en fait elle était sur l'écriture d'un tout autre roman, pourquoi l'éloignement avec sa famille, etc., etc. Quand en fait elle a compris quelque chose, c'est que durant son enfance, elle a été victime d'inceste. Et ce qui fait qu'elle a complètement arrêté, abandonné son premier projet pour se lancer dans ce roman, donc Tout brûlé. Alors le roman s'ouvre sur le dépôt de plainte de Stella, 42 ans, qui est la narratrice et le personnage principal, qui n'est pas l'autrice, même s'il y a des similarités qui sont quand même assez importantes quand on connaît un peu l'histoire de Lucie de Peslouan. Et donc Tout brûlé, elle récite sa vie, de son enfance, de sa famille dont elle écrit.
J'ai 10 ans, quand je réalise que ma famille est folle. Pas extravagante, non. Folle avec un grand D. Dérangée, dysfonctionnelle, dépravée. Je frôle les murs, j'essaye de me confier. On évacue le sujet, on minimise. Stella, tu reçois une éducation à la dure, c'est tout.
Et donc, 30 ans après les faits, Stella nous raconte son parcours. Les violences physiques qu'elle et son frère ont subies, le climat incestuel dans lequel elle évolue, les violences sexuelles que son père et son frère lui ont fait subir. Elle parle de sa plainte, de la dénonciation. En fait, tout le monde savait, personne n'a rien fait, personne n'a rien dit, personne n'a protégé, comme elle dit, les petits. Et donc le livre, en fait, il est constitué de 6 parties, elle-même découpée en de très nombreux, mais très courts aussi, chapitres, vu que aucun ne dépasse 2 pages, vraiment. Et ajoutez à cela, en fait, un style d'écriture en vers libre, et vous avez un roman avec un rythme absolument intense. Moi, je l'ai trouvé vraiment comme ça, en fait. Et j'ai trouvé justement qu'il y avait une similarité, une intensité qui ressemblerait au rythme que peut avoir une victime qui, d'un coup, lâche tout ce qu'elle a en elle, en fait. Vraiment un flow court sur des sujets, mais vraiment un flow, quoi. C'est assez incroyable ce rendu que rend ce style en vers libre, justement. Et elle donne donc, Stella, elle déverse ses émotions, ses pensées, ses traumas, ses souvenirs. Et dans ces moments-là, on construit rarement en fait un récit philosophique. On laisse juste remonter à la surface tout ce qui nous constitue. Et comme elle nous le dit...
Ce ne sont plus des souvenirs d'enfance, ce sont des flashs de violence. Tous mes souvenirs deviennent flous et se barrent peu à peu d'une croix rouge. J'avance sur des sables mouvants, tout s'écroule derrière moi. Tout ce que je n'ai jamais trouvé normal ne l'était pas. Les blessures se rouvrent et saignent à nouveau. Les écorchures, les regards, les doutes, tout saigne à nouveau.
Et si elle nous parle des crimes qu'elle a subis, elle nous parle aussi des autres victimes. Elle élargit à notre société qui ne fait rien ou trop peu. En somme, en fait, sa famille ou la société, c'est la même chose en fait. Enfin, c'est la même inaction, la même apathie ou... si ce n'est de la collaboration. Et elle nous montre aussi Stella, il faut toujours revenir à ça quand même, Stella nous montre aussi l'enfer en fait, que peut être une famille, cette sacro-sainte famille.
Depuis si longtemps je milite, je hue les hommes, la société qu'ils nous imposent. Depuis si longtemps, le pire d'entre eux était là, tous les soirs avec moi. Me suis-je battue contre les moulins à vent ? Depuis si longtemps, l'ennemi, les ennemis, ils étaient à la maison.
Elle partage donc aussi ce qui a pu l'aider à tenir le coup, comment elle a tenté de garder la tête hors de l'eau, avec la lecture, l'écriture et parfois l'alcool aussi.
Un jour je partirai ou je mourrai, je le répète dans mon journal à l'encre violette.
Alors si dans ce roman, évidemment, il y a aussi des moments positifs dans l'après, et ce que je veux absolument pas minimiser ça, c'est aussi important, mais elle ne peut pas non plus passer justement sous silence l'isolement, l'exclusion de la famille, la protection des violeurs par la famille, qui touche, on en a déjà souvent parlé ici, nombre de victimes.
Sur les 26 personnes qui constituent ma famille, proche, oncle, tante, cousin, cousine, seulement 6 ne m'ont pas renié. Je ne suis pas une exception. La révélation des faits conduit dans la plupart des cas à un éclatement familial. Je n'ai pas échappé à cette tendance. Dans un groupe de parole, une jeune femme nous dit « Je n'ai pas encore parlé aux membres de ma famille. J'ai peur de leur réaction. J'ai peur qu'ils me laissent tomber. Et pour vous, comment cela s'est passé ?» Je me dis qu'elle va être servie. Je me dis qu'elle va être déçue. Peut-être même découragée. Tout le cercle que nous formons parle de la mise en banc, parle de la mise au banc que chacune a vécue.
Et alors on peut se demander justement, elle se le demande, et si tout brûlait justement, le titre de ce roman, et si faire table rase de tout était finalement la solution ?
On me reproche de considérer les hommes comme des prédateurs. Mais comment faire quand un père nous a agressés, quand un frère a tenté de nous violer, quand des oncles ne nous ont pas protégés, quand un ex-conjoint a tenté de nous tuer? Comment faire pour ne pas voir les hommes comme des prédateurs? Je serais prête à littéralement brûler le patriarcat. Ne me donnez pas une boîte d'allumettes, un briquet, un bidon d'essence, ou alors le monde ne sera plus le même.
Et donc, vous l'aurez compris, je vous invite vivement, mais vraiment vivement, à vous procurer Tout brûlé de Lucie Peslouan, qui est paru vraiment là il y a 15 jours, je crois le 6 septembre, un truc dans le genre, aux éditions La Ville Brûle. Parce que c'est un roman et cette formule, ce style d'écriture vraiment, etc., c'est quelque chose de, enfin en tout cas que moi je n'avais jamais lu et qui apporte vraiment quelque chose et qui se lit très rapidement, vraiment, et une mise en page qui est très libre aussi, enfin vraiment les vers libres, la mise en page libre, il y a quelque chose de très, je sais pas, très vivant dans ce livre. Et je remercie forcément Clara d'avoir voulu lire. Je ne l'ai pas obligé.
C'est une proposition de ma part.
Oui, je préfère le préciser. Donc voilà, vraiment, je vous invite vraiment, vraiment à le lire. Donc, Tout brûlé de Lucile de Peslouan.
Ben merci pour la recommandation. Moi, je voulais juste te dire que j'ai lu, parce que je savais que tu présentais, j'ai pas lu le livre, je vais essayer de le lire rapidement. J'ai lu une critique qui m'a fait sourire, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en parler quand même ce soir. Il y a quelqu'un qui trouvait que le titre était violent, parce qu'elle parlait de tout brûler. Voilà. Et donc, en fait, de faire un peu table rase du passé. Alors, ce qu'il y a de marrant, pas vraiment, c'est que cette critique, elle vient quand même d'un journaliste de gauche. Je ne le citerai pas. Je sais que vous voulez que je le dise, mais je ne le dirai pas. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est que c'est un journaliste de gauche qui écrit dans un journal de gauche qui s'appelle Regard, journal communiste. Et donc, je pense que ce journaliste de gauche a oublié les paroles de l'Internationale qui dit du passé, faisons table rase. Et quand on parlait de faire table rase, c'était pas juste gentil. C'était en fait, on défonce le passé. Voilà. Donc qu'une victime puisse dire en fait, le système patriarcal dans lequel on se trouve protège les agresseurs et me met de nouveau en danger, donc faudrait le cramer. Je trouve pas ça forcément très très violent, moi personnellement. Je trouve même ça plutôt sain. Excusez-moi de le dire, mais voilà. Voilà, je lirai le livre parce que je ne veux pas. Voilà. Mais je trouve ça symptomatique de notre époque où si des gros bonhommes viennent et chantent l'International en levant le poing, personne ne trouverait rien à redire. Ouais. Alors que moi, personnellement, j'aime beaucoup l'International pour son côté, justement, extrêmement radical. Mais par contre, si une femme sort un livre, un roman, dans lequel, l'héroïne s'interroge sur l'idée, quand même, que ce serait peut-être cool de cramer le patriarcat.
Oui.
Bah, ça devient violent.
C'est même pas tant qu'elle trouve ça cool.
Non, mais ce serait peut-être la solution, je sais pas comment dire.
C'est réponse à la violence.
C'est ça.
Constante, en fait, que subissent les femmes.
C'est bien un incendie symbolique dont elle parle, hein. Messieurs, calmez-vous. Donc voilà. Donc du coup, c'est intéressant de voir que, encore une fois, des gens qui se pensent en dehors du patriarcat, parce que de gauche, machin, font finalement une sortie très patriarcale, qui est celle de dire les femmes n'ont pas le droit d'être violentes.
Oui, il faut qu'elles soient
douces. Elles
soient
douces et gentilles.
C'est ça.
Et donc c'est très symptomatique, et ça m'a fait sourire de voir ça, parce que j'ai lu un peu une recension, comme je savais que tu présentais le livre ce soir. Et la deuxième chose que je voulais inviter, c'est nos auditeurs et auditrices, vous savez, vous allez sur la page du blog de Radio Canut, donc du blog de la causerie, et vous allez sur la partie interview, ou la partie émission spéciale
témoignage,
et vous allez trouver en fait sur cette page le témoignage de Mélusine Vertelune, et vous allez aussi trouver le témoignage d'Ambre, et je vous invite à aller réécouter Ambre qui fait beaucoup de choses dans la causerie. Bah, tu t'es dévoilée sur le témoignage, Clara, oui. Donc je peux dire voilà, mais je rappelle qu'il s'appelle Ambre au départ, donc voilà, donc du coup réécoutez-les, parce que cette urgence dont tu parles dans le roman, vous la retrouverez dans les mots. Parce que oui, quand quelqu'un vous parle et quand quelqu'un partage avec vous, il le fait pas de façon philosophique ou philosophée, et c'est normal, et c'est tant mieux.
Oui.
Donc voilà, donc en fait, à un moment donné, juste je vous invite, si vous avez le temps, réécoutez ces témoignages, et peut-être que vous vous direz, tiens, si j'avais des allumettes et un bidon d'essence, si je cramais le patriarcat.
Ben oui, en fait, c'est tout voilà, le truc.
Tout simplement.
Non, c'est tout le truc, oui,
ben
effectivement.
Oui,
non, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin aussi, on vous le dit à chaque fois, mais amis auditeurs, auditrices, enfin, l'idée, c'est pas juste qu'on vienne les dimanches soirs cracher notre bile, c'est peut-être aussi que des fois, ça vous parle, ou que, tiens, vous avez aussi lu un bouquin qu'on a pu présenter, vu un film dont on a pu parler. Ben, n'hésitez pas à faire vos retours aussi, parce que c'est aussi pas la confrontation des points de vue, c'est pas l'idée, mais en tout cas, d'avoir vos retours, je trouve ça toujours aussi intéressant. Parce que voilà, si des fois on a pu vous donner une envie, etc., c'est plutôt super cool d'arriver à transmettre cette envie, et que derrière, qu'est-ce que justement vous, en tant qu'auditeur, auditrice, et ensuite en tant que lecteur ou autre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça, c'est voilà. Donc, l'idée, encore une fois, hein, vous allez sur le blog de la causerie, vous partagez votre petit avis, votre avis, dans les commentaires de l'émission concernée. Hein. On vous rappellera tout ça évidemment en fin d'émission. Et donc, je rappelle quand même, c'était Tout brûlé de Lucille de Pellouan. Voilà. Et là, on va tout de suite passer à la musique.
I don't need another time, I'm dead with my ex. Why did my open eyes affected my sense? I don't need another try, I time my nightmare. Did it break my heart, it screwed my innocence. I don't need another man, I took my revenge. Why did he openly play with my heart? I don't need another life, I drop with no breaks. Yeah.
tender love turned into such hate.
Why love needs to hurt so heavily?
Toujours à l'écoute de La Causerie sur Radio Canu au 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Et on vient de s'écouter un tout nouveau titre d'un groupe que vous avez déjà entendu dans La Causerie parce que j'aime beaucoup. Le groupe c'est Koi, donc c'est K-O-2-I avec des umlauts.
Des trémas.
Des trémas, pardon.
Les trémas pour les gens qui ne sont pas alsaciens.
C'est pas de ça, c'est de l'allemand.
Ah,
mais je
pas allemand,
j'arrive pas à le dire en français, quoi.
Bah, c'est des trémas.
Quand
en
je
français.
Vois ça, c'est umlaut. Enfin bref, pardon, je raconte ma vie. Et donc le titre, ouais. C'est Why. Il est sorti là il y a quelques jours. Et ce serait les prémices d'un tout prochain EP. Qui, je crois, est prévu pour le mois de novembre,
ça,
si je ne me trompe pas.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, moi j'aime beaucoup ce que fait Koi.
Tout à fait.
Et ben Fab, je crois que tu as deux, trois brèves.
C'est l'heure des brèves. Alors, on commence par déjà une grève, hein,
ouais.
Qui est donc le 1er octobre, avec une manif qui part à 11h30 de la manufacture des tabacs, qui évidemment terminera à 13h12, hein, 3-1-2, à la place Bellecour, normalement, si ça se passe comme prévu. Et donc, cet appel à la grève, il n'est pas pour rien. Il est pour l'abrogation de la casse des retraites, tout simplement, et aussi pour l'augmentation générale des salaires et des emplois, parce que le patronat a les moyens de payer des salaires et d'embaucher. Donc voilà, je le pense. Donc, voilà. Et comme en fait, tu auras bien les jambes chaudes après, là, une fois que tu es arrivé à Bellecour, tu poursuis un petit peu et tu vas jusqu'à Grand Lyon Habitat, qui est place de Francfort. C'est pas très loin. Parce qu'à 14h, il y a un rassemblement devant Grand Lyon Habitat à l'appel du collectif Solidarité entre femmes à la rue. Mmh. Et oui, et parce que l'idée, c'est de mettre un peu la pression pour que ces femmes qui sont à la rue, et souvent avec des enfants, trouvent une solution. Vous voyez, parce que je vous rappelle qu'il y a pas mal de trucs vides, hein, dans Lyon. Donc on peut trouver des solutions. Et du coup, ce sera suivi à... Moi, je crois que c'est à 17h30 à la Bourse du Travail, d'une rencontre du collectif pour voir ce qu'on peut faire ensemble, aider, apporter de l'aide, voilà, tout ça et tout. Donc n'hésitez pas. Voilà. Ensuite.
Ouais. Pardon, mais je rebondis vite fait là-dessus, parce que je crois qu'elles avaient occupé des lieux, etc.
Oui, ah oui, elles ont occupé au Kerloin.
Ouais, et voilà. Je voulais juste aussi, parce que je l'ai lu ce matin, enfin, je vous raconte ma vie.
Bah vas-y.
Avant mon petit.
Umlaout.
non, pardon, sérieusement. Rue 89 a fait un article assez intéressant sur que sont devenus les squats évacués. Parce que souvent, les autorités disent il faut évacuer parce que y a un projet. Et en fait, y a des lieux qui ont été évacués pour. Pas rester vide encore.
Comme d'habitude.
Donc c'est un papier assez intéressant aussi qui a été fait par Rue 89 Lyon, que vous pouvez retrouver sur leur site, évidemment. Mm-hmm. Pardon, je te laisse reprendre.
Non, mais pas de souci. Et donc ensuite, samedi 5 octobre, donc ça nous projette à quasiment le week-end prochain, hein, tout simplement. Il y a la projection de Je ne sais pas où vous serez demain par le collectif Anti-CRA. Donc c'est à 16h30. J'ai perdu où c'était. Au Grand Zéro, pardon. Donc c'est 60 avenue de Bolène à Vaux-en-Velin. Donc juste après le carré de soie pour ceux qui voient pas où c'est. Ouais.
Non, je m'inquiète pour les Lyonnais du centre-ville qui vont-ils oser franchir.
Non, mais allez-y, c'est un super lieu et l'initiative, elle est vraiment géniale. L'idée, c'est donc de projeter ce film qui parle des centres de rétention administratifs, pour ceux qui savent pas ce que j'en ai, etc. C'est-à-dire l'endroit où on enferme en prison des gens qui n'ont pas de papier avant de les expulser.
Mais qui ne sont pas des prisons, évidemment.
Mais qui ne sont pas des prisons, enfin, alors que ça ressemble quand même furieusement à
des prisons.
Voilà. voilà. Donc, et pour vous dire très clairement à la causerie, on est anti-CRA, donc voilà. Et donc, du coup, c'est suivi après d'une soirée de soutien avec l'anti-CRA fait son anti-rentrée. J'adore le nom. Et donc, ça va démarrer à partir de 16h30, donc après la diffusion, le film fait partie de cette soirée-là. Donc, après la diffusion du film et le débat qu'il y a, il y aura une soirée un petit peu festive, on va dire, où on va un peu rigoler, tout ça, parce qu'il faut quand même aussi un peu rire malgré tout. Et je vais même vous dire un truc qui va vous intéresser, c'est que il y a un repas à prix libre à 19h30 et tout ce que vous donnerez pour le repas, ça ira en fait à l'aide pour les personnes qui sont enfermées, notamment pour payer des avocats. Mmh. Et puis surtout, moi ça me plaît beaucoup, à 20h, il y a une ballroom. Eh oui. Oh. Et donc ça c'est assez génial. Si vous avez jamais vu de ballroom, c'est le moment d'y aller. Oui, c'est du voguing, tout ça. Alors vous le regardez peut-être à la télé. Donc on regarde des Drag Race, tout ça. Là vous pourrez le voir en vrai. Donc ça vaut le coup. Et puis à 22h30, il y a un DJ set avec Mimi Génial et Jean Areski, qui vont mixer. A priori, ils disent c'est du son, ça fait danser et c'est lourd. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être sympa. Donc je vais reprendre quand même ce qu'ils disent. À bas les CRA, à bas les frontières, soutien à toutes les prisonnières et prisonniers. Voilà. Et j'ai donné toutes mes brèves.
Bah oui, le rendez-vous suivant, c'est évidemment dimanche prochain à 22h sur l'antenne de Radio Canu, la causerie. C'est nous.
Auto-promo.
Ouais, et c'est pas fini. Accroche-toi bien. Si tu veux nous écrire par un petit mail, envoie à lacausericanu@gmail.com. Alors, vous ne les voyez pas, mais moi j'ai mes deux compagnons de radio qui se foutent de ma gueule en attendant ma prochaine chute, et vous l'avez dans le baba parce que j'ai tout écrit. Vous ne me reprendrez plus. Et donc, le mail, je vous l'ai donné. Pour le blog, vous retrouvez évidemment toutes les émissions et les 533 précédentes à celle d'aujourd'hui sur le blog qui est à blogs.radiocanu.org/lacauserie, où vous tapez simplement dans votre petit moteur de recherche La Causerie Radio Canu. Et vous tomberez sur nous. Il y a d'autres causeries, mais c'est pas nous. Et voilà. Et vous retrouvez évidemment aussi un post à chaque toutes les semaines sur le réseau
socio-commercial
de Marc Z, à savoir Facebook. Pareil, La Causerie Radio Canu. En fait, on ne poste que le podcast. Donc, encore une fois, on vous invite toujours, si vous voulez commenter ou autre, à commenter sur le blog même. Et on remercie aussi en même temps toutes les personnes qui peuvent nous partager, qu'on connaît, qu'on connaît pas, etc. Merci beaucoup. Et vous retrouvez évidemment aussi toutes les émissions sur les plateformes d'écoute musicale ou autres. Là, encore une fois, La Causerie Radio Canu. toujours notre petit logo avec la radio et nos trois grandes gueules qui sortent du poste, le point levé, et ben c'est nous. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
Juste dire que quand tu dis les plateformes de podcast, c'est aussi parce qu'on nous a posé déjà la question. Oui, c'est aussi...
Moi, on ne m'a jamais posé de question. Aussi... Les gens ne me parlent pas, d'ailleurs.
C'est aussi, donc, en fait, Deezer, Spotify, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres qui... Voilà, donc vous nous retrouvez là, normalement. Il n'y a qu'un endroit où on n'est pas, et je vous le dis, parce que c'est SoundCloud, voilà, on n'y est pas. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent pourquoi vous n'avez pas de SoundCloud. Bah parce qu'on veut pas être partout. Hein. Voilà, au bout d'un moment, désolé, Clara n'est pas d'accord pour faire du SoundCloud. Elle a dit non et donc du coup on a... non, c'est pas vrai. D'accord. Là, je cherchais une raison, mais non, la seule raison c'est qu'on veut pas être partout et ça prend beaucoup de temps.
Déjà, oui et puis on, là.
Non, okay, on a déjà on... pas mal d'endroits.
On donc, veut voilà. conquérir l'univers, mais bon, ça se passe pas que sur SoundCloud. Quoi. Hein, c'est partout ailleurs. Les ondes, on les envoie partout.
Donc, voilà.
Je crois qu'on a, on en a suffisamment dit des conneries aussi. Donc on va bientôt rendre l'antenne. En plus, on est à l'heure, c'est formidable. Waouh! Il faut qu'on regarde, il doit peut-être pleuvoir de la merde ou de l'égrenouille, je ne sais pas. Oh pardon, je dis trop de vulgarité.
Ça fait beaucoup en une minute. Hein. Et oui. Le dernier titre, il a été choisi par quelqu'un qui nous est très précieux à la causerie, et c'est Clara.
Toi, tu veux quelque chose.
Bah, je veux que tu reviennes faire la technique.
Le mec, rien de gratuit, rien de gratuit.
Ouais,
non, il va vraiment finir sur RTL ou je sais pas où. Donc, amis auditeurs, auditrices, on se donne évidemment rendez-vous dimanche prochain à 22h sur l'antenne de Radio Canu. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte donc en musique avec...
Le dernier titre de Zao de Sagazan, Au Travers.
Yes.
T'aimerais bien Zao de Sagazan, toi, alors, a priori.
Qu'est-ce qui te fait dire ça?
C'est la troisième fois que t'en mets dans l'émission.
Ah, bah peut-être que oui.
Et bien, amis auditeurs, auditrices, on vous souhaite une bonne semaine, bon courage à vous toutes et tous. Et puis, bah, dimanche prochain, et on se quitte donc en musique avec Zao de Sagazan.
Et ça.
Yes, allez, des bisous.
Des
ciao.
Bisous, salut.
Ciao.
Des choses controversons au travers, en vers ou bien en prose, regardez-moi de travers, je prendrai la pose, moi je les aime mes travers, donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. Chacun s'installe des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause, c'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Aux manies, je vous mets en lumière, je me fais face, fini le déni, fini les manières, blablabla, bla bla bla, et je le redis, père, mère, sœur, frère, c'est une histoire de famille, une histoire de travers, une histoire de travers. Controverse tes travers, envers et puis en prose, découvre l'endroit et l'envers, analyse la chose en comprenant tes travers, viendra la métamorphose.